Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanettetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettetrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir Sylvain, merci Bonsoir. D'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Sylvain ?
Ben ça va bien.
Bon, et ben impeccable. Alors on est ensemble pendant environ une heure et pour ceux qui découvrent l'émission, vous pourrez poser toutes vos questions à Sylvain. Mais en attendant, Sylvain, il y a une question qui revient tout le temps, systématiquement. C'est comme ça qu'on démarre chaque échange. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier trail ?
Ah oui, mon premier trail. Alors ça remonte déjà à quelques années. Hein. Le tout premier, c'était un trail en Normandie hein, qui doit toujours exister d'ailleurs, hein, qui s'appelait la Galopée à Franqueville-Saint-Pierre, qui était sur les côtes de la Seine hein, d'ailleurs. Voilà. Et ouais, j'avais pas très bien couru d'ailleurs ce jour-là, je me souviens, mais je préparais avec quelques amis, je préparais les Templiers qui c'était la course dont on parlait évidemment à l'époque, qui était un peu la première course de trail vraiment marquante. Hein. Alors bon, j'avais déjà fait quand même quelques courses un peu nature qu'on aurait pu appeler trail, mais bon, c'était le tout début, hein, c'était en 99. Et donc juste après, bah, j'ai couru mes premiers Templiers. Et voilà, bon, je découvrais à l'époque les Templiers, c'était la première course que je faisais au-delà du marathon. Donc bah, j'étais très bien pour le coup, j'étais même assez surpris, j'étais bien pendant 55 km. Après, ça a été un peu plus dur sur la fin, mais ça reste quand même un souvenir ouais, assez marquant parce que bah, justement, je n'étais pas non plus habitué à ce type de dénivelé, ce type de terrain. Le parcours était quand même pas facile. Il y avait une descente, je me souviens, qui était quand même particulièrement technique et tout ça. Et c'était vraiment une découverte, ouais. Et ça fait déjà ouais, quelques années maintenant.
Ouais, 99. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qui fait que tu sois venu au trail ? Qu'est-ce qui fait que cette discipline t'est plus qu'une autre ? Qu'est-ce qui a fait que tu en es venu à participer à ces trails-là ?
Bah, je pense que c'était... Alors, moi, à la base, j'étais coureur à pied. Hein, et j'ai toujours, dans ma pratique de la course à pied, j'ai toujours voulu... Bah, varier les distances, expérimenter aussi un peu jusqu'où mon corps pouvait aller, jusqu'au voilà, j'étais pas très spécialisé, même si j'étais quand même plutôt tourné vers les longues distances, mais typiquement j'aimais un peu tout faire. Je faisais la même année, je pouvais faire du 800 et du marathon, et puis finalement encore même après les Templiers, j'ai refait de la piste, du 800, tout ça. Donc je voulais un peu expérimenter, et puis c'est vrai qu'au fil des années, bah typiquement, une fois mes études terminées, j'ai eu moins de temps aussi pour m'entraîner. Donc on va dire que l'aspect performance de la course à pied m'a paru à partir de ce moment-là un peu plus secondaire. Et c'est vrai que le trail, surtout à cette époque-là, au début des années 2000, était un peu moins tourné vers la performance et davantage vers la découverte. Et ça m'a permis aussi d'explorer à la fois des nouveaux terrains de jeu, de découvrir aussi typiquement la montagne que je connaissais assez mal avant, de découvrir une autre façon de mener son effort, de pousser son corps plus loin. Et puis bon, c'était aussi pour moi découvrir un peu une nouvelle discipline qui était un peu en train de, pas de naître, hein, parce qu'elle existait déjà, mais elle était vraiment en train de se développer. Et forcément, il y avait une ambiance un peu pionnière qui était vraiment chouette à ce moment-là. Et je pense que c'est ce qui m'a plu avant tout. Puis ensuite, c'est vrai que ça m'a permis aussi de voyager beaucoup, de rencontrer plein de gens, de découvrir plein d'endroits. Et c'était aussi cette connexion entre la course à pied, le voyage et la nature qui m'a plu profondément. Parce que c'était surtout ça que je recherchais, même bien au-delà finalement de l'aspect compétitif.
D'accord, et c'est un petit peu. Alors, quand j'ai regardé un petit peu ton parcours en préparant, j'ai vu que tu avais fait des études de lettres et que tu avais été aussi, juste après tes études, tu avais fait une petite expérience de bibliothécaire. C'est un petit peu contradictoire, en fait, ce côté bibliothèque où tu es dans un milieu qui est assez fermé, avec cette passion justement de la nature. Comment est-ce que tu expliques ça?
Je l'explique parce que justement, effectivement, j'ai été littéraire, hein, j'ai fait des études de lettres. Alors après, tu fais des études de lettres, tu vas un peu vers les métiers qui te semblent les mieux correspondre. Après, moi, j'ai toujours aimé les livres. C'est aussi ça que les bibliothèques, ça pouvait m'attirer, hein, et je suis toujours quand même d'ailleurs encore très attaché aux livres, puisque maintenant j'en écris. Bon, ça me convient beaucoup mieux, hein, c'est aussi pour ça que j'ai changé de métier et que voilà. Après, quand j'étais conservateur de bibliothèque, je partais quand même beaucoup. J'avais commencé aussi à écrire dans la presse spécialisée, alors un peu comme un second métier, hein. Et puis au fur et à mesure, assez rapidement, hein, ça a pris beaucoup beaucoup de place et puis une place un peu de plus en plus importante. Et puis je me suis dit bon on va tenter le coup de switcher et de devenir journaliste spécialisé, ce qui était un peu une aventure, hein, aussi. Mais les
Et
premières
alors,
années c'était compliqué.
c'était compliqué par rapport à quoi?
Alors, financièrement, après
Oui.
typiquement, c'était pas forcément compliqué d'une autre façon, hein. J'étais bien occupé déjà, mais bon, typiquement, rentrer dans un métier où il n'y a pas beaucoup d'argent, par une porte un peu qui n'est pas la voie royale et tout, c'était assez compliqué. Mais bon, voilà, après, avec la passion, on fait beaucoup de choses.
Est-ce que
Mais
tu
c'est
dirais
vrai
que
qu'il
c'est
fallait s'accrocher, quoi.
est-ce que tu dirais que c'est toujours vrai ça que dans ce milieu-là, il n'y a pas beaucoup d'argent comparé à d'autres?
Alors où je pense, oui, enfin typiquement, alors à la fois dans le milieu du trail et de la course à pied, il y a encore pas énormément d'argent, même s'il y en a davantage, hein, typiquement qu'il y a 15 ans. Mais bon, ça reste un sport où les enjeux économiques sont pas monstrueux, même si ils existent, hein, mais c'est vrai que si on les compare typiquement au tennis, au football, etc., à beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup plus d'argent, ne serait-ce que pour les pratiquants à partir d'un certain niveau, hein. Là, c'est vrai qu'en trail et en course à pied en général, il faut quand même atteindre un niveau plus que costaud pour espérer en vivre, hein. Mais ce qui n'est pas forcément d'ailleurs non plus l'idéal que l'on poursuit en s'adonnant à la course à pied. Voilà. Mais bon, après, il y a toujours cette question-là, justement, de pouvoir vivre de sa passion. Alors après, il y a aussi l'autre aspect, c'est que le journalisme n'est pas non plus un milieu où les rémunérations sont très importantes. Et puis c'est vrai aussi que là, quand on écrit typiquement sur une chose qui nous passionne, à la base, voilà, on peut être aussi considéré comme ça lui fait plaisir puisqu'il vit de sa passion, il travaille là-dedans. Mais sauf que c'est un vrai boulot et qu'on fait aussi avec une structure professionnelle, des contraintes professionnelles, et donc voilà, on est tout à fait légitime aussi à gagner sa vie comme ça, parce que c'est un vrai travail, même si effectivement il y a un aspect passion qui est très important et qui continue de m'animer, hein, mais ce n'est pas uniquement parce que c'est une passion qu'on peut considérer que tout doit être fait juste pour la beauté du geste, quoi.
Bien sûr, et c'est quelque chose qui est valable pour tous les métiers, finalement, dès qu'on est passionné de son métier. Bon, la question ne se pose pas pour d'autres métiers.
Non, non, tout à fait.
D'ailleurs, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Comment est-ce que tu faisais, ou comment est-ce que tu fais, si tu le fais toujours, pour écrire et rédiger tout ce que tu rédiges pendant tes aventures et tes voyages?
Bah écoute, ça c'est un peu une technique, hein, si tu veux. Alors c'est vrai que quand je suis sur une course, même si bon je cours un tout petit peu moins quand même en compétition depuis quelques années, même si ça m'arrive encore, hein, mais là typiquement, je vais écrire sur l'événement, sur la course, souvent raconter d'une certaine façon mon expérience. Ça peut être fait relativement vite même. Je pense que il faut quand même conserver une certaine immédiateté parce que y a des sensations et des choses qu'on peut assez vite oublier ou qui sont en tout cas mieux à décrire quasiment sur l'instant. Et puis alors après, sur les voyages que je fais en itinérance, à la fois à pied, à vélo, etc., là, j'ai pas forcément de technique. Alors, quand j'avais mon blog, typiquement, je racontais souvent mes voyages au jour le jour, hein, donc c'était vraiment quasiment une discipline de vie, hein, puisque c'est vrai que typiquement, sur mes chemins de Saint-Jacques ou quand j'avais fait la Via Francigena, je faisais des très grosses journées. Je marchais, je courais à peu près 55-60 km par jour en moyenne, mais je m'astreignais quand même, hein. C'était un peu une rigueur, une contrainte à écrire un récit déjà bien construit et à le partager tous les jours sur mon blog et mes réseaux. Alors maintenant, c'est vrai que je fais un peu moins ça. Donc, je suis un peu plus cool et c'est vrai que les articles, les livres que j'écris sur les itinéraires sont. Enfin, je les écris avec un petit peu moins d'immédiateté, mais bon, je m'imprègne quand même toujours de mes impressions et j'en note quelques-unes, même si j'ai relativement une bonne mémoire, donc ça me permet quand même de ne pas non plus toujours tout rédiger. Puis c'est vrai que maintenant, souvent quand je suis en déplacement, j'ai d'autres choses à écrire. Typiquement, j'ai Wider à écrire ou un autre livre à écrire. Donc, je suis pas forcément un peu moins dans l'immédiateté maintenant de raconter, monter, mais j'écris toujours en voyage, en déplacement. Ça, je suis très très habitué à le faire. Donc, c'est un peu une technique et voilà.
D'accord. Et comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses, à séparer quand tu écris un bouquin ou quand tu écris des articles pour Wider? Est-ce que tu arrives psychologiquement, ça doit être quelque chose qui doit être assez compliqué comme ça, de passer d'un sujet à l'autre et puis on sait que aussi que l'écriture, bah, c'est quelque chose d'intellectuellement qui demande une bonne concentration, qui demande beaucoup d'énergie. Et de fait de passer d'un sujet à l'autre comme ça, c'est pas compliqué ça au quotidien?
Bah ça, non, pas tant que ça, parce que bah déjà je suis très entraîné pour ça, donc ça m'est relativement facile. Après, bah comme tout le monde, il y a des moments où c'est plus ou moins facile et tout, mais c'est quand même aussi, bah pour moi c'est quand même une vraie technique, c'est mon métier quoi, donc effectivement écrire c'est relativement facile pour moi, même si voilà, là typiquement en ce moment j'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de projets, des projets d'écriture, et j'ai toujours Wider aussi qui m'occupe bien. C'est vrai que là j'étais un petit peu ouais, la période est un peu compliquée, mais à la limite aussi parce que bah avec la situation actuelle j'ai moins cette espèce d'équilibre entre le voyage ou les déplacements, hein, même des déplacements très proches, mais là je suis un peu plus tout le temps chez moi, donc devant mon ordi, et c'est vrai que j'ai presque un peu plus de fatigue, voilà. Mais bon, j'ai aussi vraiment une grosse dose d'écriture en ce moment, mais j'aime bien justement le voyage nourrit un peu nourrit ma plume, si je peux dire.
Ça fait des bonnes coupures finalement pour se
Tout à fait.
ressourcer aussi, j'imagine.
Ouais, tout
Alors,
à fait. Puis c'est
justement.
aussi, ça me contraint, si tu veux, là, par exemple, si je marche pendant 6 ou 7 heures dans la journée. Bon, bah, si j'ai que 2 ou 3 heures le soir, par exemple, pour écrire, je sais que je dois être efficace dans ce laps de temps et c'est pas forcément beaucoup plus difficile.
D'accord. Ok, c'est des formes de flow où tu es vraiment dans ton truc pendant un moment et puis
Tout à fait.
ouais,
Je suis
t'es...
efficace et à la limite, j'ai déjà écrit une bonne partie des choses dans ma tête. Et voilà, parce que finalement, être devant son ordi, c'est juste de la réalisation pure, quoi, on va dire.
Ok. Non, c'est intéressant, je pose la question parce que j'ai sur mon blog, j'ai des périodes comme ça où j'ai envie d'écrire. C'est vraiment, ça vient, c'est une envie. Pendant une semaine, je peux écrire tous les jours pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures. Et à contrario, des fois, j'ai pas du tout envie.
Ouais, là-bas, c'est sûr que c'est
C'est
ça
pour
peut être
ça, ça
fluctuant quand même. Hein, mais après, bon, c'est vrai que moi, ouais, d'une part, c'est mon métier, donc je le
me...
fais énormément. Alors après, il y a aussi, bah, c'est un peu quand même comme la course à pied. Hein, on finit par l'entraînement, on s'améliore aussi. Hein, donc, y a une certaine facilité qui s'acquiert aussi au fil des années, je pense. Hein. Et d'une pratique intensive quand même. Bon, la différence, c'est qu'on risque moins la tendinite et choses comme ça.
Et puis
Voilà.
la tendinite du poignet, maintenant, c'est...
Ça va, non, avec le clavier, ça peut. On y
Alors,
arrive.
tu nous parlais un petit peu de Wider. Wider, comment est-ce que ça s'organise, la publication d'un magazine comme ça? Ça représente combien de personnes qui travaillent sur un numéro? Ça prend combien de temps de créer un numéro comme ça?
Alors, bah écoute, nous, bon, la périodicité de Wider, c'est tous les 2 mois. Alors, en principe, bon, j'ai quand même déjà un an en avance à peu près une idée du sommaire de chaque numéro de l'année. Hein. Donc, là, on est passé à 7 numéros enfin, à partir de 2020, et je pense qu'on va continuer sur ce rythme en 2021. Mais bon, typiquement, alors ça peut paraître presque étrange, mais la rédaction de Wider, c'est moi, quoi, en fait. Hein, ça se résume à une personne en termes de salariés, hein, donc à temps plein. Donc moi, si tu veux, bah, je conçois globalement le magazine, hein, c'est-à-dire le sommaire, les thématiques, etc. Alors après, j'ai quand même des collaborateurs, surtout sur le papier, puisque après il y a aussi tout l'aspect site internet qui est quand même aussi très important pour nous. Mais sur le papier, j'ai quand même des collaborateurs, alors qui peuvent être des collaborateurs réguliers. Hein, il y en a quelques-uns, Julien Gilleron, Mokhtar Khan, tout ça qui écrivent quasiment dans tous les numéros. Donc eux, ils vont me proposer des sujets ou moi je leur donne mes thématiques et puis je leur dis est-ce que tu as quelque chose là-dessus? Voilà, ça va dans un sens ou dans l'autre. Hein. Voilà, bon, y a Bruno Poirier aussi qui me propose souvent pas mal de très bons sujets. Voilà. Et typiquement, voilà, je construis selon bah, un peu le à la fois les lignes de force du sommaire qui sont déjà prévus, de quelques opportunités que je peux avoir en termes de reportage. S'il y a un beau sujet avec des très beaux visuels, etc., je peux aussi l'improviser un peu plus. Et voilà. Mais bon, globalement, moi, je conçois, j'ai donc des collaborateurs qui écrivent des articles. Moi, j'en écris une bonne grosse partie aussi, quand même. Hein. Et puis voilà. Et puis après, je reçois les textes, je les relis, je les recoupe de temps en temps on va dire que j'harmonise le tout. Et puis ensuite, il y a le travail aussi qui est mené avec la graphiste. Hein, enfin, en général, j'ai une graphiste. Hein, et voilà, donc là, il y a quelques allers-retours évidemment pour la maquette. Et puis tout ça se fait relativement vite parce que c'est vrai qu'un magazine, ça se. Bah, en 2 mois, finalement, c'est relativement court, hein, surtout qu'effectivement, on n'est pas très nombreux dans l'équipe, quoi, voilà. Donc, mais
C'est
bon,
intéressant
ça.
parce que c'est vrai que souvent on peut imaginer comme ça qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dessus derrière. Donc ça, on se rend compte encore plus de ce que tu nous disais juste avant, que ça représente quand même pas mal de temps de travail, toute cette histoire.
Ben oui. Et puis effectivement, il y a aussi quand même l'aspect. Alors, si j'avais que les magazines papier, je pense que je me baladerais presque. Mais c'est vrai que le site internet prend quand même beaucoup de temps aussi parce qu'il faut y être un peu bah, tous les jours, quoi. H24, mais c'est vrai que bon, typiquement, moi, je publie quand même souvent samedi, dimanche, pendant mes vacances. Donc, ça s'arrête un peu jamais. Et ça, c'est vrai que le site internet, je fais également les réseaux sociaux. Alors, heureusement, je fais pas trop l'Instagram de Wider. Ce qui est quand même cool. Mais sinon, je fais. Et le Twitter aussi, il y a quelqu'un qui le fait pour moi. Mais bon, Facebook, c'est quand même le gros. Notre réseau social le plus important et je le fais aussi. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça à gérer en même temps. Donc voilà. Mais c'est ce qui fait aussi
T'ennuies pas, quoi.
Non, 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 voilà. C'est stimulant aussi.
Ok, ça marche. Alors, on a une question de Fleur qui nous demande quel a été le trail ou l'aventure le plus marquant émotionnellement et pourquoi que tu aies fait?
Ah, c'est difficile comme question parce qu'il y en a quand même plusieurs qui m'ont bien marqué. Alors, si je parle de trail, vraiment de trail organisé, je pense que bah, l'un des plus marquants pour moi, bah, il y en aurait deux parce que c'est des trail aventure un peu qui m'ont marqué, hein. Il y a l'Imal Race que j'ai fait courir en 2010, hein, donc qui est une course. Un peu folle, hein, organisée par un collègue qui est aussi un des grands pionniers du trail, hein, Bruno Poirier, hein, qui travaille pour Ouest France notamment. Et donc ça consistait à relier bah, le mont Kailash au Tibet, au camp de base des Annapurna, enfin aux Annapurna. Donc c'était à peu près 1 000 km à travers l'Himalaya. On a fait 13 cols à plus de 5 000 mètres. On a quand même traversé des régions du Népal qui sont assez peu hospitalières. Donc c'était vraiment ouais, au-delà d'une course, c'était une belle aventure et c'était quand même très chouette. Après, une autre course qui m'a marqué, ben, beaucoup plus récemment, c'est le Trek aussi, qui est une course. Alors là, il y a des déclinaisons maintenant qui se font un peu partout. Hein. En principe, je vais aller au Cap-Vert avec l'équipe d'organisation du Trek là pour une nouvelle épreuve, un ultra trail sur l'île de Saint-Nantao au mois de mai, si tout va bien. Mais à la base, c'était une course qui avait lieu au Tchad, dans le désert de l'Ennedi, qui est vraiment aussi bah, typiquement un désert assez fantastique avec des grandes arches naturelles, des sculptures minérales qui sont vraiment impressionnantes. Et puis c'est un lieu un peu loin, vraiment loin de tout, quoi, très sauvage. C'était une course de 200 km en non-stop et c'était quand même aussi un. Voilà, il faisait très 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 chaud et comme moi j'ai souvent du mal avec la chaleur, j'ai beaucoup couru sous la chaleur mais j'ai du mal. Et là ça s'était bien passé donc du coup j'en ai un très très fort souvenir aussi.
Ok.
Voilà. Et après j'ai d'autres aventures plus personnelles qui m'ont beaucoup marqué, bah, comme mes chemins de Saint-Jacques, la Via Francigena aussi, donc où j'ai couru et marché de Canterbury à Rome et ça c'était une très très belle expérience aussi.
Et justement, toi qui as parcouru le monde comme ça, à pied, à vélo, il y a un sujet qui revient souvent sur l'émission dans les personnes qui sont allées aux États-Unis faire des courses. Ils me disent souvent qu'il y a une ambiance qui est vraiment particulière aux États-Unis comparée à l'ambiance qu'on connaît sur les trails français ou européens. Est-ce que tu trouves, toi, qu'il y a une ambiance comme ça par continent ou par pays qui change en fonction des cultures des pays? Tu trouves que ça change vraiment l'ambiance ou est-ce qu'il y a un esprit trail international?
Alors, je pense qu'il y a quand même un esprit trail un peu international parce que ouais, on est quand même tous réunis justement dans cette communion de la course et de la nature. Alors après, c'est vrai quand même que bah, typiquement de la petite expérience par exemple que je peux avoir du trail aux États-Unis, même si j'en ai pas couru beaucoup là-bas, mais et c'était des petites courses, mais quand même c'était il y a une espèce de côté très détente et un peu voilà, on fait une course avec quelques bouts de pas grand-chose, allez, 3 4 personnes pour faire les ravitaux. Là, la course à laquelle je pense, c'est une course dans un parc naturel, mais on faisait des tours, hein, typiquement c'était des boucles de 5 ou 6 miles, 8 km à peu près. Donc voilà, c'était vraiment très convivial et puis très simple en fait, hein, voilà. À la fin, il y avait un barbecue avec des bières et des burgers et puis tout se passe bien, quoi. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est un esprit qu'on trouve quand même dans les courses, les petites courses en Europe, mais qui est peut-être un petit peu moins présent maintenant, une espèce de simplicité, quoi, voilà. Après, sur les autres continents, parce que j'ai quand même couru un peu partout, ben ça dépend aussi un peu du niveau à la fois de la connaissance de la pratique et puis du niveau de vie aussi du pays. Donc c'est vrai que là, les ambiances peuvent être un petit peu différentes, mais il y a quand même souvent un bel enthousiasme. Alors aussi, peut-être parfois, quelque chose, des choses d'un peu plus. Bon, on peut pas parler de naïveté, mais ouais, un peu. Voilà, quelque chose de. Ouais, ils sont typiquement, même en Chine, par exemple. Et bon, ouais, ils y vont, quoi. Allez, ils ont pas trop peur. Et puis, mais c'est quand même globalement, c'est souvent très convivial et très, très chouette. Alors après, forcément, ouais, chaque pays a un peu son ambiance. Et ça se retrouve bien. Bah, typiquement aux États-Unis, oui, on sent quand même, dans la petite expérience que j'ai, c'était très américain. Et c'est vrai que j'avais aussi, un peu senti cette ambiance-là dans les sur les quelques randos itinérantes que j'ai fait aux US, hein, voilà, où finalement le contact est relativement facile, donc on va vite sympathiser et tout, et c'est quand même globalement cool, quoi.
D'accord, donc la randonnée comme ça aux États-Unis, c'est un petit peu comme le trail, tout est à la cool et on est bien accueilli. Donc tu nous incites à
Ouais,
y aller.
souvent, ouais, typiquement, oui, c'est. Alors après, c'est pareil, hein, ça dépend aussi un peu de chaque, ouais, un peu du hasard aussi, hein. Typiquement, j'avais fait le Colorado Trail il y a quelques années en randonnée, hein. Et j'avais fait, ouais, j'ai passé 15 jours à randonner avec des jeunes Américains que je connaissais pas du tout. On s'était juste trouvé sur le sentier, comme c'est un sentier où on bivouaque et tout. Donc voilà, c'était super chouette de faire tout le trajet ensemble. Et c'était vraiment une super expérience. Et il y a d'autres parcours aux États-Unis où, on rencontrait on campait tous un peu, enfin les étapes, les campements. Possible, les endroits de bivouac sont un peu toujours les mêmes, et finalement tu rencontres les gens. Bon, c'est sympa, mais il n'y a pas la petite étincelle qui se fait, mais globalement c'est toujours quand même, voilà, au moins très poli, très 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 aimable et tout, et souriant, quoi, surtout.
D'accord. Donc, okay, c'est intéressant d'avoir toute cette vision un peu globale du trail mondial un peu et ces différentes ambiances qu'on peut retrouver sur les différents circuits. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure. Il y a Vincent qui a une question pour toi. Question sans doute déjà posée. Quelle est la plus belle course que tu aimerais faire cet été?
Ah, cet été, c'est difficile à dire là pour le coup. En fait, c'est vrai qu'avec cette interruption qu'on espère le plus momentanée possible de toutes les compétitions, j'avoue que je me suis assez peu projeté sur les calendriers finalement. Paradoxalement, hein, parce que c'est vrai que on en parle, enfin j'en parle à longueur de temps sur Wider, mais je me suis assez peu projeté en tant que coureur finalement. Donc je verrai un peu là où le vent me porte. Alors si, j'ai quand même quelques belles perspectives de course, hein, notamment une course, après peut-être celle de 200 Nantao là au Cap-Vert, hein, j'espère toujours. J'ai une course aussi, qui est organisée aussi par des amis, sur la Voialicienne en Turquie, et ça va être chouette. Alors en principe, je vais baliser le parcours, donc je serai avant les coureurs, mais ça va être aussi une expérience sympa. Et puis c'est vrai que bon, je suis quand même un peu de moins en moins tourné vers la compétition, donc voilà. Puis c'est vrai que j'ai aussi un peu bien mal au tendon d'Achille en ce moment, donc je suis pas 100% à fond sur mes objectifs compétitifs. Mais bon, après, il y a voilà, j'espère quand même faire quelques belles courses cet été, mais j'ai pas une course totalement précisément en tête, si ce n'est cette Voialicienne, mais en tant que baliseur pour le coup.
Ok. Et alors, comment tu expliques le fait que tu ne te tournes plus vraiment vers des courses officielles en dehors de cette douleur que tu as actuellement, est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Ouais, bien sûr, il y a d'autres raisons. Typiquement parce que c'est vrai que maintenant, je pense que j'ai tendance à préférer. Ouais, je préfère peut-être même la randonnée itinérante, le voyage itinérant, parce que ça m'apporte peut-être encore plus de liberté finalement par rapport à une épreuve de trail qui va rester organisée. En même temps, j'aime toujours quand même le trail parce qu'il y a cet aspect vraiment convivial. Alors c'est vrai que j'ai, quand je dis ça, c'est vrai que j'ai tendance à préférer aussi les courses en petits comités, tout ça, même si c'est, enfin, je veux dire, les grandes messes sont quand même aussi des instants forts, hein, des moments importants du milieu, et il en faut, hein, on peut pas, voilà, ça peut pas être non plus uniquement des courses avec 15 ou 20 personnes, mais c'est vrai que c'est celles-ci qui me tiennent souvent le plus à cœur. Après, j'aime quand même, je suis quand même toujours un homme de défi quand même, donc c'est vrai que j'aime bien aussi me dire que je suis toujours capable de faire 100 km sur mes deux pieds d'un coup, tu vois. Donc typiquement, je sais que je vais encore replonger sur quelques ultra trails ou sur quelques courses aussi, hein. J'ai même ces dernières années, j'ai aussi pris du plaisir à recourir aussi sur des courses, même des formats beaucoup plus traditionnels, même sur route, alors que ça faisait quand même des années que j'avais pas couru, parce que finalement j'accepte aussi d'aller moins vite, et que voilà, c'est, mais bon, c'est aussi toute une évolution de ma pratique, hein. J'ai essayé de faire en sorte aussi, enfin c'est dans mon caractère, et c'est ce qui guide un peu ma passion et ma pratique, mais je suis jamais sur un mode complètement figé où j'ai toujours varié un peu les découvertes, les plaisirs, et je suis toujours quand même là-dessus. Alors c'est vrai que du coup, bah ouais, je suis passé quand même dans un mode de moins en moins compétitif ou compétiteur. Voilà, il y a aussi un peu effectivement l'usure des tendons et tout qui me freine sans doute un peu, mais quand même au-delà de ça, ouais, voilà, je suis quand même surtout attiré par découvrir des nouveaux endroits, voilà, profiter de la nature, du patrimoine, des rencontres. Et alors, le trail peut me l'apporter, mais il y a d'autres choses qui me l'apportent aussi. Donc j'aime bien varier aussi les plaisirs et les ambiances.
Ouais, non, c'est intéressant parce que c'est souvent un schéma qu'on retrouve. J'ai l'impression qu'on a une grande envie de participer à beaucoup beaucoup de courses, de faire tous les plus grands noms. Enfin, et puis au bout d'un moment, on a peut-être envie aussi de se retrouver face avec la nature, tout seul, à parcourir des sentiers de façon un peu plus simple. Est-ce que c'est un schéma que tu as l'impression de retrouver chez d'autres comme ça ou
Oui, quand même, oui, bah c'est sûr. Bah après, je pense qu'effectivement, il y a aussi le fait que parfois on se rend compte qu'on, alors même si l'effort en pleine nature, ça peut magnifier aussi l'environnement, et puis on a une espèce de rapport justement avec le paysage et tout qui peut être très fort. Mais c'est vrai que parfois, je me souviens par exemple là j'ai randonné en Vanoise ces dernières années, et auparavant, j'avais surtout couru en Vanoise, et c'est vrai que refaire le tour des glaciers de la Vanoise en randonnée et sans trop se presser, bah ouais, il y a tout un tas de choses que j'avais pas vraiment vues, même si j'avais ressenti la montagne d'une façon différente en courant et en forçant sur ces mêmes sentiers. Mais c'est vrai que ça se complète bien, et typiquement, bah il y a aussi un temps un peu un temps pour tout, hein, même si on peut quand même conjuguer encore. Et moi, je cours encore, hein, je suis pas non plus complètement, enfin je suis pas du tout, j'aime toujours courir, hein, c'est pas, voilà, donc mais c'est vrai que oui, la compétition, bah oui, il y a aussi le fait que j'en ai fait énormément aussi, hein, et certaines années j'avais dû courir une dizaine d'ultra trail, et forcément il y a une petite lassitude physique et tout, et là je me sens pas de m'impliquer autant dans cette pratique-là, qui est quand même aussi très très demandeuse en énergie, à la fois physique et psychologique, hein, donc c'est quand même un engagement assez fort. Alors du coup, maintenant, typiquement ces dernières années, je me suis davantage limité, sauf évidemment là 2020, c'est un peu compliqué voilà, mais typiquement avant, je faisais plus que deux, allez, deux, trois courses vraiment longues par an, quoi, typiquement. Et ça me permettait quand même d'avoir une respiration plus importante, et de concilier aussi beaucoup beaucoup mieux, bah, à la fois mon travail, ma famille aussi. Maintenant, je suis papa, tout ça, donc c'est un peu différent. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai fait un peu des années, ouais, des années un peu extrêmes, quoi. Alors, tout est relatif, évidemment, hein, mais dans une pratique quand même très, très intensive. Et voilà, et c'est vrai aussi que mes voyages à pied m'ont aussi un peu ouvert, sur quelque chose de moins compétitif. Et voilà, ça m'a aussi un peu, donné encore plus le goût d'un, voilà, de l'effort, mais sans la contrainte aussi ou la pression de la compétition.
Ok, c'est intéressant, j'aime bien le parcours comme ça des personnes souvent se tournent vers plus de simplicité. Ok, ça se retrouve, ça revient souvent, je trouve. Alors, il y a Didier qui dit: Salut Sylvain, raconte-nous tes péripéties lors de ta traversée du Népal en solo. J'ai vu passer ça, effectivement. Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu, s'il te plaît?
Oui, bah c'était il y a bientôt 10 ans, hein, donc ouais, j'avais une idée, je sais pas si c'était une bonne idée, de traverser l'Himalaya népalais tout seul, hein, donc le Great Himalaya Trail, hein, mais qui est un sentier compliqué parce qu'il a, enfin en tout cas, à cette époque-là, il existait un peu que sur les cartes. Parce que finalement, il y a quand même des endroits qui sont très très compliqués. En fait, au Népal, toute la zone, on va dire centrale, où il y a les chemins de trek, ça va, ça reste des chemins techniques, parfois même à la limite de la haute montagne, mais c'est souvent praticable. Et puis c'est vrai que les deux extrémités est et ouest du pays sont vraiment sauvages et c'est vraiment des endroits très compliqués. Et bah, du coup là j'étais tout seul, donc dans l'est du Népal, dans une zone entre le Kanchenjunga et le Makalu. On était en septembre, mais la mousson avait été tardive, donc j'étais dans une jungle de bambou, ça glissait à fond, quoi. Et en fait je me suis cassé le bras droit, d'abord, un peu bêtement d'ailleurs, en traversant un torrent. J'étais vraiment tout près du bord et j'ai glissé. Je me suis sans doute mal réceptionné, donc c'est la chute que tu fais 100 fois sans rien trop te faire mal. Et puis là, bon, j'ai bien senti bon, d'abord que j'avais mal, et puis que l'axe de mon poignet et de mon coude n'était plus le bon, quoi. Et puis voilà, puis j'avais pas trop le choix, hein. J'étais sur un col qui s'appelle, enfin un col, un petit sommet même qui s'appelle le Lumba Sambala, et donc un peu plus de 5003 à peu près, hein. Et donc bon, ben voilà, je suis descendu, j'ai continué, hein, donc avec le bras cassé, puis j'ai fini quand même par arriver. C'était une journée très très longue, hein. J'avais dû marcher peut-être 12 ou 13 heures, et à très bonne allure, hein. Voilà, et puis je suis arrivé dans un village, qui est un camp de réfugiés tibétains qui s'appelle Tudam. Et c'est un peu vraiment le bout du monde, hein. Là, je pense que je suis pas allé dans beaucoup beaucoup d'autres endroits plus paumés. Et là, bon voilà, j'arrive avec mon bras cassé. Et un peu par miracle, il y avait une expédition de Japonais qui était là, des vieux Japonais qui avaient mis 5 jours à faire ce que j'avais fait pendant la journée, tu vois.
Ah oui.
Mais ils m'ont beaucoup aidé, et je suis reparti avec eux, en fait, parce que bon, j'avais déjà ce bras cassé. Et puis eux, ils avaient tout un staff, hein. Il y avait une vingtaine de Sherpas avec eux, de Népalais. Donc voilà, ces gens aussi très très expérimentés. Puis 2 jours plus tard, je suis retombé à nouveau dans un glissement de terrain. Et là, je me suis recassé le bras droit, je me suis cassé le bras gauche. J'avais toute la main ouverte. Il y avait bon des rochers énormes qui me sont passés vraiment à 5 cm de la tête. Donc j'aurais pu vraiment mourir sur ce coup-là. Et puis du coup, ben, grâce à mes amis japonais, qui m'ont aidé à remonter, qui ensuite m'ont vraiment beaucoup beaucoup aidé. En 2 jours de marche supplémentaire, où là j'avais vraiment les deux bras cassés, et puis donc tout un tas d'autres soucis. On a pu regagner un village où là on a pu appeler les secours, et donc direction Katmandou, et tout ça, voilà. Et puis bah du coup, pour remercier, parce que c'est vraiment grâce à ces 3 Japonais et leur staff népalais que je suis encore là. Je suis allé au Japon l'année suivante, et j'ai marché sur le chemin des 88 temples. Voilà, et le chef de l'expédition, qui était un himalayiste vraiment très connu, hein, qui s'appelait, enfin son surnom, c'était Typhoon Dolpo. Il y a même une montagne qui porte son nom au Népal, le Typhoon Peak. Voilà, et lui, c'est vraiment un homme extraordinaire, très très chouette. Il s'est vraiment occupé de moi les 3 mois où je suis resté au Japon, hein, comme si j'étais son fils. Et bon, malheureusement, il est mort d'un cancer. de 3 ans après, mais je l'oublierai jamais parce que c'est vrai qu'ils m'ont, lui et ses amis m'ont vraiment sorti d'une très mauvaise passe. Mais j'ai eu quand même beaucoup beaucoup de chance dans mon malheur parce que c'était quand même un accident bien compliqué dans un endroit qui était vraiment pas facile d'accès et il fallait s'en sortir quoi, voilà.
Ok,
Du
super
coup, c'est
histoire.
ouais, c'était
Ah,
ah,
super. Super parce
non,
que
non.
ça s'est bien terminé, mais
Tout à fait, ouais, non, non, c'est.
des anecdotes comme ça, t'en as beaucoup en
Ouais, j'en ai. Bon, celle-ci est quand même
ouais.
la plus dramatique. Hein. Ouais, non, non, j'ai pas autant risqué ma vie ni eu d'autres gros, gros soucis au cours de mes voyages. Hein. Après, c'est vrai que je fais quand même souvent des destinations un peu moins risquées. Et puis, alors, c'est vrai que par contre, ça m'a typiquement. Une chose que je ne fais quasiment plus, c'est vraiment de partir tout seul dans des endroits trop dangereux ou trop sauvages, quoi. Voilà. Après, bon, typiquement, je suis reparti tout seul.
Dirais que tu es peut-être brûlé ou
Non, non, pas du tout en plus. Non, 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 moi, je suis quelqu'un de prudent. Donc,
Ah oui. Et
oui,
comment
non.
est-ce que tu prépares ce genre de d'expédition qui n'existe pas vraiment en fait?
Bah là, bon, j'avais quand même préparé avec les cartes ce qu'il existait comme documentation. Puis après, bah, tu prévois plus ou moins ton parcours. Et voilà. Mais bon,
Ok.
c'est vrai que c'était pas la meilleure idée que j'ai eue, hein, typiquement.
Parce que c'est vrai que quand j'entends certaines personnes qui ont du mal à organiser un try-off autour de chez eux
Ouais.
et qui a certaines personnes qui arrivent à partir à l'autre bout du monde sur des chemins qui n'existent pas, comment ça se fait
Après, c'est aussi une question d'expérience, tout ça. Alors, c'est vrai aussi que c'est un petit truc que j'ai constaté. Si je peux comparer un peu le milieu du trail et de la randonnée, bah, typiquement, le trailer, si je fais des grosses généralités, il a quand même souvent besoin d'un cadre, hein, d'une organisation. C'est aussi pour ça qu'il a besoin de courses. Alors que typiquement, le randonneur, bon, bah, il va regarder des traces GPS, un guide et machin, et il y va. Et puis, si jamais il peut même avec de l'expérience et tout se construire son propre voyage. Et c'est vrai que c'est un état d'esprit ou une façon de faire qui est davantage enfin qui est plus courante en tout cas chez les randonneurs ou chez les voyageurs cyclistes même que chez le trailer qui reste un coureur à pied habitué à avoir un parcours et tout. Mais bon, les choses changent aussi et puis effectivement. Bah, le développement de certaines applications, puis le développement du off aussi, et puis même des parcours simplement balisés, on va dire du trail hors compétition, fait que bah, ça va un peu rentrer dans les mœurs, mais c'était pas, on va dire, l'habitude et la culture de base, je pense, du coureur à pied et donc du trailer.
Mais ça y vient un petit peu par la force des choses, là, avec l'annulation de toutes les courses, les gens s'y mettent, quoi, au
Bah
off.
oui, complètement, ouais. Mais moi, c'est d'ailleurs, je suis plutôt content de ça parce que finalement, moi, ma pratique du trail, elle a été beaucoup, beaucoup basée sur le ce qu'on appelle le off depuis le début. Parce qu'en fait, typiquement, je me souviens, on faisait des records entre guillemets ou des recos plutôt, même sur des parcours, type avec Philippe Delachenal, il y a 10 ou 12 ans, par exemple, Philippe, qui était vraiment un des grands pionniers aussi du trail, hein, qui a organisé aussi beaucoup d'épreuves et tout, et qui est typiquement, lui, c'était vraiment le gars qui allait partir sur un parcours, sur un sentier, voir comment ça se passait et tout. Et on avait fait des choses comme ça sur le Tour de la Lozière, le Grand Tour de Tarentaise, qui venait juste, enfin, qui n'était pas encore tout à fait balisé, des trucs comme ça. Donc, ça, c'était typiquement dans cet esprit-là. Et si ça peut devenir une pratique bah, plus courante parmi les trailers, je trouve ça quand même chouette parce que c'est aussi pour moi vraiment le plaisir de courir et découvrir.
Bah c'est vrai qu'on est aussi plus livré à soi-même, encore plus que sur une course, parce que bon, sur une course, on reste quand même un peu livré à soi-même, même si, parce qu'on est tout seul à gérer notre effort, et puis ça reste un sport solitaire. Mais sur les aventures comme ça, un petit peu off, c'est vrai que là, on est vraiment tout seul, et ça demande aussi d'autres compétences que le coureur n'a pas, la gestion de l'autonomie, quoi, tout simplement.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'il faut souvent se renseigner sur, les possibilités de ravitaillement, les points d'eau, les choses comme ça. Et c'est vrai que c'était pas forcément un réflexe ou une culture qui était très très présente finalement chez le trailer, même paradoxalement, parce que finalement on évoluait sur les mêmes terrains typiquement que les randonneurs, mais on avait moins cette approche justement de dire bah ouais là il y a un refuge donc c'est bon, on peut y aller. Ou là il y a un point d'eau, je vais prendre une gourde filtrante et puis je serai tranquille, quoi. C'est vrai qu'il y avait moins cette idée-là. Après, il y a toujours aussi quand même la question de l'autonomie, du poids du sac et tout, qui est quand même assez importante en trail, parce que du coup, si on veut passer du côté randonneur de la force, même si de toute façon la frontière elle est toujours un peu fluctuante, hein, parce qu'entre de la randonnée rapide, du fast hiking ou du trail, surtout quand on parle de off, bon, c'est pas toujours, c'est presque plus un terme de, on va dire de positionnement, autant que de vitesse de déplacement presque.
On peut parler aussi d'alpitrail. J'ai
Ouais,
découvert
alors ça c'est ouais.
ce terme récemment.
Ouais, alors ça c'est plutôt pour le coup, je pense, une pratique un peu élitiste, hein, pour le coup, disons qui va concerner vraiment des gens qui sont vraiment à l'aise sur de la montagne technique, sur des choses un peu, qui est une pratique, bah oui, qui s'est un peu inspirée forcément de Kilian Jornet, hein. Enfin après on peut aussi mettre pas mal de choses derrière cet alpitrail, mais ça, c'est peut-être à prendre avec un peu plus de prudence, en tout cas, on va dire pour le pratiquant lambda.
Tout à fait, tout à fait. Tu fais bien de le rappeler. On n'est pas
Ouais.
tous bien Jornet. Même
C'est sûr.
si on aimerait bien.
Ouais, moi, ça me manque pas, en fait, de ne pas être Kilian Jornet, tu vois.
Crois que
Non,
des fois,
non.
il aimerait bien ne pas être lui, hein, parce que.
Ah bah après, enfin non, mais je veux dire, il a tracé sa voie et tout,
Je crois que c'est pas trop son truc, mais bon. Si je
Ah
le reçois un jour, je lui poserai la question. Alors, il y a Fleur qui nous demande s'il y a une aventure qui te fait rêver mais qui te paraît difficile à réaliser.
Ouais, alors bah il y a des choses que j'ai remises à plus tard, typiquement, mais ouais, il y a de toute façon plein de choses qui me font encore rêver, hein, c'est sûr pareil. J'avais prévu, bah, typiquement, ouais, traverser les États-Unis en courant, par exemple. Ça c'est toujours un truc qui me titillerait. Après là, bon, typiquement, je sais que ces toutes prochaines années, ça va être un peu compliqué à mettre en place, mais ce genre de choses, ouais, j'ai encore des bonnes envies comme ça. Alors plutôt, ouais, sur des grandes itinérances de ce type-là. Ouais, les États-Unis, ça me plaît bien parce que l'expérience que j'en ai, j'ai trouvé ça chouette. Mais après, je ferai sans doute beaucoup d'autres choses avant de faire ça, par exemple, hein. Alors après, il y a des choses que, ouais, non, en fait, les choses qui me font vraiment rêver, je sais qu'elles sont quand même réalisables, en fait. Typiquement, les choses dont je suis totalement incapable me font moins rêver, quoi. Typiquement, je suis pas nageur, je vais pas rêver de faire un méga triathlon en traversant l'Atlantique à la nage, par exemple. Mais ça va pas me manquer forcément, parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Voilà, il y a encore plein plein de choses qui me font rêver et difficiles à réaliser. Après, ouais, ça peut. Ah si, il peut y avoir des choses qui me tenteraient bien, mais qui sont trop chères ou qui prennent trop de temps. Et voilà, mais après, j'ai pas de frustration, en tout cas. Enfin, un petit peu en ce moment, parce que c'est vrai qu'on bouge vraiment, vraiment pas beaucoup, mais autrement, non. Et voilà, je peux aussi très bien, même ces. Ouais, l'an dernier, par exemple, cet été, je suis resté finalement en France et dans les Alpes, et ça me va bien aussi, hein. J'ai pas forcément non plus de.
Besoin de partir à l'autre bout du monde.
Non, non, non. Enfin, j'aime bien, hein. J'aime beaucoup voir le monde et tout, mais typiquement, c'est pareil, hein. Ces dernières années, c'est un peu comme pour les ultra trails, les voyages très lointains, j'en fais un ou deux par an, pas plus, parce que. Alors bon, certes, aussi l'aspect écologique, etc. Mais typiquement, même sur une pure écologie du corps, ça fatigue, hein. Je veux dire, typiquement, se prendre 12 heures de décalage horaire, si c'est pour rester 3 jours dans le pays, ça vaut vraiment pas le coup, quoi.
C'est sûr,
Donc,
c'est sûr.
voilà.
Alors, je suis content que Didier pose la question au sujet du chemin de Compostelle parce que c'est un parcours qui m'intéresse personnellement et que j'aimerais bien faire un jour. Quelle était ta part de spiritualité dans ton cheminement?
Bah, elle était quand même importante. Alors, de spiritualité, en tout cas de recherche de soi-même, peut-être de recherche d'un être supérieur, sans doute. J'avais aussi beaucoup, moi je suis quand même très sensible à l'histoire, au patrimoine, et dans les chemins de Saint-Jacques, et typiquement tous ces sentiers historiques que j'apprécie particulièrement. On sent aussi vraiment un héritage de tous les pèlerins, tous les marcheurs qui nous ont précédés sur ces sentiers-là, et ça, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours touché, et c'était vraiment aussi ça qui m'intéressait dans ma découverte des sentiers de Compostelle. Après, c'est vrai aussi que ce sont des sentiers qui me plaisent parce qu'il y a aussi un bel équilibre justement entre nature et culture. Et puis, il y a justement toute la trace de cette spiritualité passée, hein. C'est des chemins où bah, il y a forcément évidemment beaucoup d'édifices religieux, mais qui imprègnent aussi voilà, parce que sans être religieux, on est forcément un peu imprégné de cette spiritualité, hein. Typiquement, un paysage comme l'Aubrac, par exemple, c'est quelque chose qui a été façonné par des moines, et il y a une certaine résonance dans ces grands espaces, de peut-être aussi de pas de ils engendrent aussi une certaine forme de méditation et d'introspection qui est particulière, et qui alors qu'on retrouve aussi, hein, sur beaucoup d'autres sentiers, et c'est un état d'esprit qu'on peut de toute façon avoir en marchant et en courant aussi d'ailleurs, même si, hein, peut-être avec des nuances différentes. Mais typiquement, je pense que c'est les chemins de Compostelle, oui, ils font écho de cette spiritualité passée dont je pense mon passage, en tout cas, a essayé de se nourrir. Ouais.
Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un discours que j'ai déjà entendu aussi que en fait ce chemin-là, même si tu es pas religieux, il y a une espèce de recherche de la foi, enfin la foi en ce qu'on veut, hein,
Ouais, tout à
en
fait, ouais.
l'être supérieur, en bref, en ce qu'on veut, et que chaque personne qui parcourt ce chemin-là, sur une distance, peu importe la distance, retrouve en fait cet esprit et cette ambiance sur ces chemins-là. C'est assez particulier.
Ouais, bah,
Waouh.
c'est vrai, ouais. Ouais. Bah, je pense aussi que après, on rencontre aussi des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit, dans le même cheminement, donc forcément ça y participe aussi. Et puis c'est vrai que c'est souvent, bah, alors c'est souvent des chemins qui sont pas forcément très difficiles ou dans une nature, et quoique c'est très très variable, hein. Il peut y avoir des endroits, des montagnes, il peut y avoir des endroits beaucoup moins charmants d'ailleurs aussi, comme même des banlieues de ville. Mais c'est aussi ce qui fait la différence sur un chemin de Saint-Jacques, typiquement. Bah, s'il faut traverser la banlieue d'une ville espagnole pour arriver à la fin de son étape, on le fait, et c'est là un peu qu'on est dans la différence avec, on va dire, la randonnée, quoi, la randonnée de plaisir, où forcément on va essayer de trouver le parcours le plus beau possible. Et sur un sentier comme ça, on prend ce qu'il y a sur le sentier, même dans les moments un peu difficiles, où finalement la marche là devient vraiment un. Voilà, il faut avancer, et c'est peut-être juste le fait d'avancer qui nous fait rentrer aussi dans cette introspection et dans cette recherche de soi et peut-être d'autres choses.
C'est chouette, c'est une belle histoire. J'aime bien. Il faut vraiment que je prenne le temps d'aller faire ces chemins-là parce que ça fait vraiment envie. Ça fait vraiment envie.
Écoute, ouais, je pense. Bah, tu peux même partir de chez toi, hein. Typiquement, en Bretagne, il y a quelques voies de Saint-Jacques, et on peut
Mais c'est ce
tout
que
à
j'ai
fait.
découvert en fait. À l'origine, je pensais que c'était un chemin, une seule voie, et en fait, c'est une sorte de ramification qui va
Ouais,
vers
tout à fait.
l'arrivée.
Tout à fait. L'arrivée est commune, si tu veux, mais il y a des. Enfin, il y en a vraiment énormément. Et puis, alors, c'est vrai aussi qu'avec le succès des chemins de Saint-Jacques, il y a des voies plus ou moins historiques qui se redécouvrent et qui se rebalisent, etc. Mais oui, typiquement, Alors, j'ai jamais vraiment parcouru le chemin breton, hein, j'ai déjà croisé, mais il y a effectivement un chemin, enfin plusieurs parcours de Saint-Jacques en Bretagne qui ensuite vont rejoindre bah, du coup la voie de Paris et de Tours.
Ok, intéressant. Affaire à suivre me concernant.
Ouais, ça peut être un bon défi, hein, surtout que ça fait, si tu vas jusqu'à Saint-Jacques, ça fait quand même des bornes. Hein.
Ouais.
Moi, la première fois que je suis parti vers Saint-Jacques, j'habitais Aix-les-Bains, donc j'étais parti de chez moi. Ça faisait 2000 km, mais du Finistère, moyen que ça soit au moins aussi loin, voire un peu plus même, je pense.
Ouais. Bon, il y a d'autres choses à faire avant.
Oui, non, tu as, c'est sûr.
Alors, on en a parlé un petit peu au tout début, mais là actuellement, tu as une grosse quand même actualité, c'est que tu as un livre qui va sortir dans 15 jours, le 23 si je ne me trompe pas, qui est
Tu te trompes pas, non.
actuellement en précommande, qui s'appelle Révolution Trail, que tu as co-écrit avec Véronique Billat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre et de ce nouveau livre, parce que c'en est un nouveau.
Oui, bien sûr, oui, bah oui, j'ai publié pas mal de livres ces derniers temps et j'ai continué d'en publier quelques-uns, mais c'est vrai que les autres sont davantage sur la marche et le vélo. Et celui-ci est sur le trail. Et alors pour moi, c'est déjà, ben, ouais, c'est un honneur surtout de co-signer un livre avec Véronique Billat, parce que pour moi, depuis que je cours, c'est quand même un nom qui est très connu. Je me souviens qu'il y a déjà pas mal de temps, on tentait tous de lire et de comprendre son VO2 max et performance, hein, qui est un livre qui a fait date un peu dans l'histoire de la physiologie de l'effort d'endurance, bon, qui était pas forcément très très simple à comprendre, hein, fallait un bon niveau scientifique, mais c'est vrai que Véronique, c'est une grande chercheuse, hein, c'est quelqu'un qui continue d'ailleurs de toujours avec la même énergie, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement énergique et qui est vraiment très passionné aussi, d'explorer un peu l'effort et notamment surtout l'effort d'endurance et la course à pied à travers la science, hein, et non seulement elle cherche, mais elle trouve aussi beaucoup de pistes vraiment intéressantes. Et dans ce livre-là, donc elle livre un peu sa vision de l'entraînement du trail qui va surprendre, je pense, pas mal de lecteurs. Et ce qui m'a plu aussi dans sa démarche, c'est que au-delà même de, enfin, au-delà, en même temps, c'est lié aussi à ce qu'elle ses dernières recherches en physiologie. Mais si tu veux, la construction de son entraînement est quand même très liée au plaisir de courir, à la sensation et à la liberté, justement. On en parlait un peu bah, tout au long de notre échange, mais la liberté de courir que représente le trail. Et elle construit un système d'entraînement qui est vraiment validé sur le plan scientifique, qui est aussi assez révolutionnaire, hein, tout est dans le titre, mais qui valide vraiment, si tu veux, à la fois cette liberté de courir que continue de représenter le trail et le plaisir de courir qui est très basé aussi sur l'aspect cortex cérébral, sur les sensations, beaucoup plus que bah, sur tout le temps être fixé par exemple sur un GPS ou un chrono. Et c'est vraiment, ouais, ça c'est vraiment intéressant. Alors moi, j'ai contribué à ce livre sur un chapitre historique, hein, qui présente bah, justement le trail. Alors c'est aussi pour ça que ça se lit bien avec les propos de Véronique, mais donc à la fois sur les origines du trail, hein, qui reste, à mon sens, une discipline de la course à pied, hein, même si elle a été nourrie de bien d'autres disciplines, notamment de pratiques de pleine nature, mais qui trouve quand même majoritairement son origine dans la course à pied et qui a apporté un vrai renouveau, une vraie révolution justement dans cette course à pied, et voilà, avec justement la liberté de courir en nature. Et voilà, après j'évoque ben, un peu toute l'évolution du trail et le succès assez fulgurant de la discipline, puisque ça reste une discipline très très jeune, hein. Enfin, tu vois, moi, quand je parle de mes premiers Templiers en 99, c'était quand même assez difficile d'imaginer que le trail allait prendre autant d'importance, même si on pouvait sentir qu'il se passait déjà un truc.
D'accord. Dès le départ, tu penses que...
Ouais, il y avait quand même un engouement. Alors, c'était beaucoup plus restreint et c'était, mais il y a quand même rapidement eu quelque chose qui s'est déclenché, je pense.
Et est-ce que tu penses, parce que souvent, alors le parallèle va peut-être être un peu bancal, celui que je vais faire, mais quand quelque chose vient à devenir populaire très rapidement, typiquement une star de télé-réalité, elle est très vite populaire, mais sa décroissance est aussi très rapide. Est-ce que tu penses que, enfin, elle est très vite plus connue du tout. Est-ce que tu penses que le trail, ça peut connaître cet effet-là?
Je pense pas parce que c'est quand même typiquement si on continue la comparaison avec la star de télé-réalité, c'est une popularité, une célébrité qui est beaucoup moins artificielle. Elle n'a pas été vraiment poussée par. Alors certes, il y avait eu un aspect médiatique hein, dans le développement du trail. Hein, typiquement, les Templiers, par exemple, au début ont joué un grand rôle. Et c'est vrai qu'ils étaient organisés par le magazine qui, à l'époque, était parmi les deux, trois plus influents du milieu de la course à pied. Mais voilà, je pense que c'est pas comparable parce que finalement, c'est quelque chose qui s'est fait très vite, mais qui répondait, je pense, à une aspiration profonde de la société. Et qu'on retrouve aussi dans l'engouement pour d'autres disciplines. Et là, bah, qu'on va peut-être même encore plus voir dans ces quelques prochaines années avec un peu bah, aussi ce que va provoquer l'enfermement collectif. Voilà, il y a une appétence pour la nature encore plus forte. Donc, je pense pas que le trail va s'éteindre comme ça tout de suite. Et je pense que c'est même rentré déjà dans une certaine, familiarité, non, je pense le trail a encore de beaux jours devant lui.
Même si, même s'il connaît des révolutions, il a encore
Tout
de
à
beaux
fait, ouais. Ouais. Après, bah, je pense c'est un peu d'ailleurs de mon propos dans le livre que je publie avec Véronique Billat. À mon sens, le trail parle dans plusieurs directions. Hein. Il y a aussi un développement très compétitif, hein, très élitiste aussi, qui est quand même important, hein, avec aussi des médias. On en parle aussi hein, sur Wider et des sponsors et des enjeux sportifs, etc. qui sont quand même différents de ce qu'ils étaient il y a 10 ans, hein, où c'était quand même beaucoup plus gentillet. Mais aussi bah, le développement du off, la popularité de la discipline qui est au-delà de ça. Donc je pense qu'il y a plusieurs directions, il y a un peu un croisement de sentiers dans le développement du trail, mais en même temps, c'est pas forcément incompatible qu'il se développe dans plusieurs directions simultanément. Donc,
Ok, ça marche. Alors, Vincent, encore une question qui nous demande si tu as déjà écrit plusieurs, tu en as déjà écrit plusieurs, mais quel livre aimerais-tu écrire?
Alors bah écoute, là j'en écris encore actuellement. Hein. Il y en a pas mal d'autres qui vont sortir cette année. Alors plutôt des beaux livres. Hein, là c'est voilà, il va y avoir Marcher en France. Il va y avoir un livre sur le chemin de Compostelle, mais un beau livre hein, cette fois-ci avec des belles images. Après bah du coup moi je serais tenté, même si pour l'instant j'en ai pas vraiment le temps, j'ai pas non plus l'expérience de ça, mais ouais, j'aimerais bien écrire de la fiction aussi, tu vois, parce que là, pour l'instant, je n'écris que des récits, des essais et des beaux livres. Alors, ouais, j'aimerais bien écrire de la fiction, peut-être pour les adultes ou pour les enfants, parce que maintenant, du coup, j'ai une petite fille, j'aimerais bien écrire aussi pour elle. Et puis, c'était un peu ça, pour le coup, c'était aussi un peu hein, mon rêve d'enfant.
Écrire des DVD, des trucs comme ça.
Ouais, bah voilà, ouais, typiquement, c'est ce que je voulais faire. Quand j'étais, enfin jusqu'à mes 17-18 ans, tu vois, être
D'accord.
auteur de bandes dessinées ou de livres pour enfants. Donc je désespère pas, tu vois. Mais après, je sais pas du tout si ça se fera ou pas. Hein, mais
Tu dessines aussi un petit peu?
Ouais, j'ai arrêté de dessiner il y a longtemps. Là, faudrait vraiment que je m'y remette. Mais bon, après, ça peut être aussi des collaborations, hein. Mais, tu vois, mon premier livre, c'était une très belle collaboration avec Mathieu Forichon, le dessinateur qui est très connu dans le trail de Desbosses et des Bulles. Donc c'était très chouette puisqu'il avait illustré mon récit sur le Saint-Jacques en courant, hein. C'était Pèlerin Express. Et typiquement, voilà, ça pourrait être d'autres collaborations dans ce genre-là. Mais c'est
D'accord.
vrai que, là, pour le coup, le petit rêve, ça serait d'écrire de la fiction. Mais
D'accord. Intéressant.
voilà, à voir si j'y arrive ou pas.
Ok, alors je suis désolé parce qu'il y avait beaucoup d'autres questions, mais j'en affiche une dernière parce qu'on a déjà passé
Ben oui,
l'heure.
ouais, tout à
L'heure.
fait.
Une anecdote ou une belle rencontre lors de ces aventures, hormis les Japonais. Voilà, allez.
Ah, alors ça aussi c'est difficile à dire parce qu'il y en a vraiment tellement que bah écoute bah sur la Via Francigena, j'avais été très touché parce que donc la Via Francigena c'est le chemin de pèlerinage qui va de Canterbury à Rome, hein, que c'est l'ancien chemin de pèlerins qui des pèlerins qui allaient à Rome et qui reprend le parcours d'un archevêque anglais du Xe siècle, hein, qui était parti de Canterbury, qui était allé à Rome, qui était lui revenu à Canterbury. Et donc moi j'étais parti de Canterbury et typiquement, bon j'avais à l'époque, je faisais ça aussi avec des sponsors, hein, qui étaient Chamina en France, donc l'agence de voyage spécialisée dans les chemins historiques, hein, qui m'avait quand même très gentiment aidé. Et puis il y avait leur réceptif, hein, donc l'agence qui bossait avec eux en Italie. Et typiquement, j'avais rencontré le patron de l'agence, Gabriel, une ou deux fois à Annecy. Et puis juste une fois, pendant 2 heures, j'avais rencontré un gars qui est Stefano, qui était juste le responsable de la partie trail d'ailleurs de cette agence qui organise des très jolies courses par étapes en Italie, hein, le Sicilia Volcano Trail ou l'Amalfi Coast Race. Et je l'avais vu quoi une fois pendant 2 heures et il m'attendait donc au sommet du Grand Saint-Bernard à la frontière de la Suisse et italienne, donc qui marque le passage en Italie de ce parcours. Et il m'a dit bah écoute le soir donc on parle et tout, et il me dit, bah, écoute, si tu veux, j'ai un peu fait de la publicité autour de ton projet, tout ça, donc j'ai un peu d'un budget, et puis soit tu veux, je te donne tout l'argent, tu vas tout seul, soit on partage, et moi je t'accompagne jusqu'à Rome, et tout ça, et donc il m'a accompagné jusqu'à Rome, et c'était assez extraordinaire, parce que tout le long là, de cette traversée de l'Italie, j'avais un peu des gens comme ça qui venaient courir avec moi. Des matins, on était 12 ou 13, il y avait un petit côté Forrest Gump qui était assez chouette et ils étaient vraiment super enthousiastes juste parce que bah voilà, j'avais décidé de courir de Canterbury à Rome et ils trouvaient ça tellement chouette que voilà, ils venaient me rencontrer, c'était vraiment des super moments et bon, j'aime beaucoup l'Italie mais c'est vrai que ça reste un super souvenir et il y a cet enthousiasme-là qui était vraiment super super chouette quoi.
J'aime beaucoup l'image avec Forrest Gump.
Ouais, bah
On
ouais,
visualise tout de suite l'idée.
mais c'était un peu ça quand même, hein. Mon petit niveau, c'était quand même vraiment chouette de voir des gens, bah ouais, qui te connaissent pas et qui viennent juste courir avec toi parce qu'ils trouvent ça chouette que tu puisses aller comme ça de
Mais
l'Angleterre à
c'est vrai
l'Italie en
que ces
courant.
événements-là occasionnent des rencontres toujours fabuleuses. Toujours fabuleuse,
Ah
et
ouais.
j'imagine que tu pourrais nous en raconter encore pendant toute la soirée, mais ça fait
Oui,
déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Alors Sylvain, où est-ce qu'on peut retrouver, on en a beaucoup parlé de Wider déjà, mais où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble de ton travail, où est-ce qu'on peut retrouver tes livres, etc.
alors, bah écoute, bon, Wider, on peut le retrouver sur le site, hein, widermag.com, et puis bon, évidemment en kiosque, hein, dans tous les bons kiosques. Mes livres, on les retrouve en librairie ou bah, chez les libraires en ligne. Hein. Alors, il y en a un qu'il faut pas citer, mais il y a tous les autres. Hein. Il y a la Fnac, De Citre, etc. Bah, le plus simple, évidemment, c'est de taper Sylvain Bazin, parce que j'ai plusieurs éditeurs. Hein. Là, je publie chez Grund, chez Glénat, qui est une très belle maison d'édition grenobloise, hein, comme chacun sait. Et voilà, donc. Donc on les retrouve un peu partout. Et alors typiquement aussi pour finir sur le livre que je publie avec Véronique, lui il est publié chez Debuc Supérieur. C'est un éditeur universitaire hein, qui est très très spécialisé justement dans la science du sport. Hein, et voilà. Mais on le trouve, il est tout à fait disponible en librairie à partir du 23 février. Et tous les autres le sont aussi. Voilà.
Ok, super. Bah, je mettrai le lien pour précommander le livre dans la description et le lien aussi de Wider aussi dans la description. Donc vous pourrez retrouver
Merci.
l'ensemble du travail de Sylvain dans la description. Bah, merci beaucoup Sylvain. Qu'est-ce qu'on peut te
Merci
souhaiter pour cette
François.
année 2021? Bon, dernier mot.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Oh,
Ah,
non,
un mot.
un mot, allez, sortir.
Sortir.
Ouais.
J'aime bien. Super, bah merci beaucoup Sylvain, merci beaucoup à tous d'avoir été présents lors de cette nouvelle émission encore avec Sylvain Bazin. Et puis bah moi je vous dis à mercredi prochain avec un nouvel invité qui sera encore exceptionnel. Donc merci beaucoup à tous, très bonne soirée à tous, bye bye.
Merci, bonne soirée.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine. Bye bye.